C'est un réel plaisir de me trouver devant vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous entendez souvent, mais en tout cas pour moi, je pense que c'est aussi le cas pour les autres prédicateurs, mais pour moi c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur de voir que ce qu'il m'a mis sur le cœur, eh bien, vous l'écoutez avec attention. Et je voudrais vous remercier pour ces temps que nous passons pendant la prédication, semaine après semaine. Donc, Ivan a dit de quoi nous allions parler, mais vous le saviez de toute façon, puisque vous êtes curieux, vous avez de la mémoire, le sens de l'observation. Et vous savez que nous sommes actuellement dans une série de prédications sur nos missions. Les missions que Dieu, notre Seigneur, nous confie à nous, son Église. Donc nous avons vu trois missions. Est-ce que vous vous en souvenez ? Non. Annoncer, c'était le domaine, c'était dimanche dernier, ça, c'est pas de chance. Il y avait une mission d'évangélisation par laquelle on annonce effectivement. L'enseignement, c'est celle par laquelle nous avons commencé, et entre les deux, comment ? La communion fraternelle, on l'a appelé l'amour fraternel. L'enseignement, l'amour fraternel, l'évangélisation, et ce matin donc, l'adoration. L'adoration. Et en préparant le culte de ce matin, il est venu cette idée de changer le déroulement du culte. Je pense que c'est une bonne chose, une bonne habitude que nous avons de commencer nos cultes par louer, adorer notre Dieu, par nos chants, par nos prières, parce que ça nous permet de nous tourner vers lui avant de l'écouter. Mais aujourd'hui, je trouve que ça avait un sens de changer cet ordre, parce que nous allons parler justement de comment faire pour nous tourner vers lui. Et donc, quelque part, nous aurons la théorie avant la pratique. Et nous aurons, après cette prédication, un temps de TP sur l'adoration. L'adoration. Bon, c'est un peu facile de dire ça quand les autres prédicateurs sont passés avant moi, mais je trouve que c'est sans doute le moins facile à définir parmi les missions que Dieu a confiées à son Église. L'adoration, tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est lié au culte. C'est lié à cette réunion hebdomadaire qu'on a dimanche après dimanche. Mais pas que. C'est pas que ça, l'adoration, c'est une relation à Dieu. On pourrait faire le parallèle entre l'amitié, qui est une relation qu'il peut y avoir entre un homme et un autre homme. L'adoration, c'est la relation qu'il y a de l'homme vers Dieu. Voilà. Mais concrètement. Concrètement. Peterson, qui a écrit pas mal sur le sujet, qui est un théologien qui a écrit pas mal sur le sujet, avoue, hein, en introduction de ce qu'il écrit, que l'adoration n'est réellement définie nulle part dans l'Écriture, d'où la gêne qu'on peut avoir. Mais si elle n'est définie nulle part, la Bible en parle beaucoup. Donc pour savoir ce qu'est l'adoration, il va nous falloir avoir une vue un peu transverse, il va falloir avoir une connaissance de la Bible, que nous allons augmenter au fur et à mesure de nos lectures pour essayer de comprendre ce qu'est l'adoration. Et c'est pas surprenant de voir les choses comme ça. Si l'adoration, c'est une relation entre nous et Dieu, c'est normal que, comme toute relation, eh bien ça s'apprenne avec le temps. Au début, on pense que ce sont certaines choses, et puis au fur et à mesure, on se rend compte que pour que la relation marche bien, il faudrait ajouter ça. Et puis, on se rend compte qu'on a l'habitude de faire ça et que finalement, ce n'est pas super. Enfin, c'est normal qu'avec le temps, ça évolue. Toujours dans ce temps d'introduction, j'aimerais quand même parler un tout petit peu de vocabulaire, parce que on parle d'adoration, on parle de culte, on parle de louange, et tout ça, ça se mélange peut-être un petit peu, et on ne sait pas quelle est la différence, et je crois que la différence est diffuse. Dans ce que je dirais aujourd'hui, j'utiliserai le mot adoration pour parler, comme je l'ai dit, de la relation de l'homme vers Dieu. Ça, c'est l'adoration. Et cette relation, ça produit le culte. Le culte, c'est le produit, le fruit de notre adoration. Et puis, la louange, qu'est-ce que la louange ? C'est une composante de l'adoration. La composante où, par des paroles, qu'elles soient chantées, qu'elles soient priées, qu'elles soient proclamées, on va dire du bien de l'objet de notre louange, on va dire du bien de Dieu. Voilà, donc adoration, c'est la relation. Le culte, c'est ce que produit l'adoration. Et la louange, les paroles qu'on peut avoir pour glorifier Dieu, une composante de l'adoration. Pour notre prédication de ce matin, je vous propose de partir d'un texte du Nouveau Testament. J'ai dit que la Bible parlait de l'adoration par-ci, par-là, et qu'en assemblant les pièces de ce puzzle, on arrivait à voir ce qu'était l'adoration. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une pièce de ce puzzle. Dans Colossiens, au chapitre 3 et le verset 16. Colossiens 3, chapitre 16. Comment ? Chapitre 3, Colossiens chapitre 3 et verset 16. Où il est écrit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse, par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, dans la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc voilà, un verset, un seul verset, très dense, qui s'est imposé à moi alors que je cherchais quel point de départ j'allais utiliser pour cette prédication. Un verset qui parle du rassemblement des chrétiens, ce rassemblement qu'on appelle le culte, mais ce rassemblement que nous avons tous les dimanches matins. Quand on essaye de savoir qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin, on est bien embêté, parce que le Nouveau Testament ne nous donne pas vraiment d'instructions. Il ne nous dit pas que le culte commence par un temps d'accueil et qu'ensuite nous avons un temps de louange qui dure 30 minutes. Les enfants sortent bien au milieu de ce moment de louange. Ensuite, nous avons la prédication, etc. etc. Non, il n'y a nulle part où c'est écrit dans la Bible. Le Nouveau Testament laisse le flou sur cette réunion. Et ce verset de Colossiens est souvent cité comme un texte qui nous éclaire sur comment organiser nos réunions. Dans ce texte, dans ce qu'écrit Paul, on voit d'abord toutes sortes de louanges, des cantiques, des hymnes et des cantiques spirituels. Alors, je ne suis pas très content de ma traduction. Toutes les Bibles dans lesquelles j'ai regardé parlent de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels. Alors, les psaumes sont des cantiques, mais les psaumes, c'est des cantiques écrits. C'est des cantiques qu'on trouve dans la Bible. Et effectivement, on peut utiliser la parole de Dieu pour le louer. lire les psaumes, les lire à haute voix, ça aide notre louange, ça fait partie de notre louange. Ces textes peuvent être lus, ils peuvent être mis en musique. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien de chants nous chantons qui sont en fait des textes bibliques mis en musique, des psaumes ou autres. Et ils ont une très grande utilité parce qu'ils nous rappellent la parole. La musique a cette vertu qu'elle pénètre facilement dans nos mémoires et on peut retenir mieux des textes bibliques mis en musique qu'on ne peut le faire par des textes qui nous sont lus et répétés. Utiliser les psaumes pour la louange a une autre vertu, c'est qu'elle inscrit notre louange dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous reprenons les mêmes mots universels et utiles pour nous, pour louer Dieu. Ils nous permettent de louer d'une façon agréée par Dieu, sans risque, correcte, puisque dans la parole, et ils nous permettent de nous approprier la parole de Dieu. Donc des psaumes, également des hymnes. Les hymnes, ce sont des textes composés, hein, des textes écrits, des chants composés, des textes qui sont réfléchis, qui permettent d'exprimer les vérités de la foi, d'emprunter le pas d'un auteur théologien, de quelqu'un qui a réfléchi, qui n'a pas juste jeté ça comme ça, mais qui a construit son texte. Et vous avez certainement en tête des cantiques que nous chantons et que vous trouvez particulièrement édifiants parce que ils résument ce que Dieu a fait pour nous. Ce sont des chants qui ont un message qui nourrit notre foi. Ils permettent d'exprimer des choses qui touchent à notre époque et qui pénètrent dans nos mémoires, qui nous donnent à méditer et qui nous reviennent en mémoire. Souvent, quand on est en fin de vie, qu'on commence à oublier, les choses qui nous reviennent, ce sont les cantiques. Et ces cantiques, s'ils sont solides, s'ils expriment des vérités bibliques, ce sont de vraies aides pour ces moments-là et pour notre vie, même aujourd'hui. Donc des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles. Les cantiques spirituelles, là, c'est plutôt la louange spontanée. Ça peut être des chants spontanés. Dans certains cultes charismatiques, on a des moments de chants qui ne sont pas écrits, où chacun chantonne en improvisant. Ceux qui ont assisté à ces cultes voient de quoi je parle et connaissent la beauté de ces pratiques. Mais la louange n'est pas seulement chantée, il y a aussi les prières spontanées et libres que nous pratiquons et où le cœur s'exprime directement pour louer Dieu. Ce n'est pas toujours construit, mais c'est très spontané et ça a un grand potentiel d'authenticité. Ils nous permettent d'exprimer à Dieu ce qu'on a au fond de nos cœurs, là, en ce moment. De l'exprimer et de lui remettre. Parce que notre relation avec Dieu, elle n'est pas seulement intellectuelle. C'est aussi une relation entière. Et Dieu prend intérêt dans la façon dont nous sentons. Il nous prend tel que nous sommes, y compris dans nos sentiments. Donc voilà, toutes sortes de louanges, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Il y a autre chose qu'on trouve et qui est structurant dans ce verset. C'est la première chose qui est dite, que la parole du Christ habite en vous. Le culte, c'est un lieu qui repose sur la parole. Ce n'est pas un moment sympa où on fait n'importe quoi. Il y a ce cadre, cette structure qu'est la parole. Déjà, si vous vous souvenez de la prédication que nous avons pu avoir sur notre mission d'enseignement, vous souvenez que nous allons utiliser le culte pour prêcher la parole. À la suite de ce qu'a fait Jésus, à la suite de ce qu'ont fait les apôtres, à la suite de ce qu'ont fait les premiers chrétiens qui, chaque fois qu'ils se rassemblaient, enseignaient, étaient enseignés, nous aussi, on ne va pas y couper. Et si vous vous souvenez, je disais dans la prédication sur l'enseignement que cet enseignement avait deux caractéristiques, l'autorité et qu'il était tourné vers la pratique. Et ces deux caractéristiques, on les retrouve dans ce verset. Instruisez-vous, exhortez-vous. Instruisez-vous nous rappelle l'autorité de la parole. Elle est là pour instruire. Les chants, la louange, c'est sympa, mais le culte, on n'est pas là pour se faire du bien. Ce n'est pas le but. On vient pour Dieu, pour exprimer notre adoration. Et si on veut avoir une relation avec lui, il va aussi falloir l'écouter à travers la parole. Et il va falloir écouter cette parole en lui laissant l'autorité qu'elle a. On ne vient pas pour faire son tri dans ce qu'on entend, mais pour écouter ce que Dieu a à nous dire. C'est l'instruction. Et puis cette instruction est tournée vers la pratique, et c'est le « exhortez-vous ». Exhortez-vous, ce sont les encouragements que nous adressons les uns aux autres et qui sont fondés sur la parole. Nous répéter les uns aux autres de tenir bon dans les aspects concrets de nos vies. Ce concret que nous avons pu exprimer dans nos prières, ce concret qui transparaît dans notre proximité, alors que nous sommes rassemblés ensemble dans un même lieu. Et nous pouvons utiliser ces rassemblements pour nous encourager à aller de l'avant, fondés sur la parole de Dieu. Une chose est frappante dans ce verset. Ce verset dans lequel on veut trouver des instructions sur comment conduire nos rassemblements. Une chose est frappante, c'est la très grande liberté qui s'y trouve. Je le disais, nulle part dans le Nouveau Testament, on nous dit un culte, ça doit être comme ça. Et ce verset, je trouve, nous donne une très grande liberté également. Paul donne une direction, il énonce des possibilités, de différentes façons de louer, c'est pas très contraignant. Et je crois même qu'il nous invite à la créativité pour ces moments. Parce qu'il nous dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. La richesse qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut contenir entièrement. Et je crois que cette richesse, c'est une invitation à la créativité pour nos moments d'adoration. Créativité pour adorer Dieu. Créativité pour mettre dans notre réponse à Dieu une partie de la richesse qu'il a mis dans le mouvement qu'il a eu envers nous. Le mouvement qu'il a eu pour nous atteindre, pour aller nous chercher, chacun individuellement, chacun de la façon qui nous touchait, qui nous parlait. Il est venu se révéler à nous dans une très grande richesse et nous pouvons avoir continué notre relation avec lui avec une très grande richesse. Alors, il ne faut pas confondre la liberté, et puis un coup c'est oui, un coup c'est non, selon mon humeur du matin. Si vous regardez les verbes de ce verset, ce sont quand même des impératifs. Que la parole habite, instruisez-vous, exhortez-vous, chantez à Dieu de tout votre cœur. Il y a un ordre, une exhortation à aller dans l'adoration. Ce n'est pas pour quand je me sens bien. Il y a un côté de « il faut qu'on se mette en mouvement ». L'adoration, c'est une mission. Ce n'est pas une possibilité qui nous est donnée, une bénédiction, c'est notre mission. Donc il ne faut pas confondre la liberté avec l'optionnel. Mais la liberté, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Et certaines spiritualités chrétiennes ont voulu des temps d'adoration liturgiques, réfléchis, écrits. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas exprimer sa créativité dans une forme travaillée ? À chacun, après, de faire l'effort d'y inscrire sa vie. D'autres spiritualités ont voulu vivre cette adoration de manière spontanée. Pourquoi pas ? La spontanéité, c'est un encouragement à la vie, ça facilite la vie, ça facilite l'authenticité. Pourquoi pas ? À condition de conserver une place pour la rigueur théologique, pour rester fondé sur la parole. Paul propose à chaque église de rechercher son équilibre entre spontanéité et réflexion dans la créativité, tant que la parole fait autorité et qu'elle cadre. Car la différence entre la liberté et le n'importe quoi, c'est la fidélité à la parole. J'ai oublié de parler du moteur de l'adoration. Qu'est-ce qui génère l'adoration ? On le retrouve à la fin du verset. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. L'adoration, c'est la partie de la relation entre Dieu, entre l'homme vers Dieu. Et cette relation, c'est une réponse. Réponse à ce que Dieu a déjà fait pour nous. Dieu est déjà venu vers nous et nous a donné accès à lui dans sa grâce. Nous étions pécheurs. Nous n'avions pas accès à Dieu, aucune relation avec lui. Si nous en avons une aujourd'hui, c'est parce qu'il nous en a fait cadeau. Et donc, le moteur de notre adoration, c'est la reconnaissance pour ce cadeau. C'est cette grâce première qui nous pousse à nous tourner vers lui. Donc, que retenir ? Que retenir de ce verset ? Un simple verset, mais d'une très grande densité. On peut retenir cette liberté dans l'adoration. Vous voulez chanter ? Chantez. Des chants solides comme des chants très spontanés. Priez, exprimez-vous, soyez créatifs. Fondez-vous. Toujours sur la parole, soyez dans la reconnaissance pour la grâce de Dieu et pour le reste. Soyez libres. Voilà ce que Paul propose à ses lecteurs, à ses correspondants rassemblés à l'église de Colosse. Et ça nous aide à tracer les grandes lignes de l'adoration. Mais je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul et essayer de comprendre l'adoration dans l'histoire. D'où vient l'adoration ? L'adoration vient depuis le début. Depuis le début du choix du peuple de Dieu. Dieu s'est choisi un peuple. Parmi tous les peuples de la terre, il en a choisi un pour avoir une relation avec lui. C'est le peuple juif. Un peuple qu'il a racheté, un peuple qu'il a arraché de l'esclavage en Égypte pour avoir une relation avec lui. Et lorsqu'il veut prendre ce peuple, le faire sortir de l'esclavage, il dit à Moïse d'aller trouver le Pharaon et de dire au Pharaon, je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Voilà la raison que Dieu donne à Pharaon pour laisser partir son peuple, pour me rendre un culte, pour m'adorer. C'est pour cela que Dieu a voulu un peuple. C'est ça la vocation de ce peuple, son appel, ce à quoi il est destiné. Adorer Dieu, avoir une relation avec lui, se tourner vers lui. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu veut ça ? Je dois vous avouer que je ne saurais pas vous donner une réponse certaine. On peut spéculer, mais c'est un mystère. J'ai réfléchi, je ne crois pas que la Bible explique pourquoi Dieu avait envie de créer un peuple pour avoir une relation avec lui. Dieu est Dieu et il n'a pas à rendre des comptes, il ne s'explique pas. Mais la Bible rend témoignage de ce qu'il a créé l'homme, non pas pour observer comment il se débat sur terre dans la vie, non pas pour s'amuser de ces petites créatures qu'il a faites. Il a créé l'homme pour avoir une relation avec lui, pour vivre avec lui, pour être en communion avec lui. Pourquoi est-ce que le divin qui avait tout veut vivre avec nous ? C'est un mystère. Mais c'est sa volonté, c'est pour ça qu'il s'est choisi un peuple. Pour avoir une relation. Et de notre côté, du côté de l'homme, cette relation s'appelle l'adoration. Et nous, qui à travers Jésus-Christ avons été ajoutés à son peuple, nous avons cette invitation à poursuivre cette vocation d'adoration. À la femme samaritaine qui lui demande comment ça se passe, l'adoration. Comment on fait pour être en relation avec Dieu ? Est-ce que ça se fait comme les Juifs ? Est-ce que ça se fait comme les Samaritains ? Est-ce que ça se fait différemment ? Jésus lui répond, « Crois-moi, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne à Samarie, ni de Jérusalem pour adorer le Père. » Je n'ai pas la fin du verset. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. En esprit et en vérité. Voilà ce que vient changer Jésus. Avant Jésus, l'adoration, c'est très codifié. Dieu donne tout un paquet d'instructions sur comment faire pour s'approcher de lui. Comment un homme pécheur peut s'approcher de Dieu qui est si grand, si parfait. Mais avec Jésus, cet accès est simplifié, direct, en esprit et en vérité. En vérité à travers Jésus, Jésus qui est la vérité. Jésus, l'intermédiaire qui nous permet d'aller vers Dieu, de l'adorer. C'est lui, Jésus, qui rétablit le contact entre nous et Dieu. C'est à travers lui que nous pouvons répondre. et en esprit. Grâce au Saint-Esprit qui est en nous et qui nous guide dans la réponse. Qui nous permet d'avoir cette relation avec Dieu. En Jésus, nous pouvons adorer en pleine liberté, en esprit et en vérité. En pleine liberté, comme Paul nous exhorte à le faire. Et en même temps, il y a une autre chose que Jésus vient changer, pas tant changer que clarifier. C'est que l'adoration ne se limite pas à 2 heures que l'on passe ensemble dimanche matin ou à des sacrifices qui se passent au temple sous l'Ancienne Alliance. C'est Paul qui écrit aux Romains « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. » Offrir son corps, ce n'est pas offrir 2 heures toutes les semaines. Offrir son corps, c'est s'offrir soi complètement. C'est offrir sa vie. Ce que Dieu veut, c'est tout notre être, tout notre temps, tout notre corps, toute notre obéissance. Ce n'est pas le servir 2 heures par semaine, chanter quelques chants, même très beaux, prier, même de façon très profonde et inspirée. Il attend que nous le servions toute notre vie, jour après jour. Non seulement que nous le louions de notre bouche quand nous sommes rassemblés ensemble, mais aussi que nous poursuivions cette louange verbale quand nous sommes dans le monde. Que nous puissions avoir le courage d'ouvrir la bouche quand on se sent poussé devant nos amis, devant nos collègues, devant les gens que nous croisons, quand nous nous sentons poussés à dire quelle est la vérité, à dire ce que nous croyons. L'adoration, c'est aussi obéir à ce qu'il nous demande, en particulier dans le service les uns aux autres. Dans l'amour que nous avons pour nos frères, pour nos sœurs. Quand quelques musiciens viennent ici, ce n'est pas parce qu'ils aiment la musique et que ça leur fait plaisir, pas seulement. S'ils répètent pendant la semaine, s'ils se lèvent plus tôt le dimanche matin, c'est aussi pour aider leurs frères et sœurs de l'Assemblée. Les aider simplement à chanter bien, à chanter juste. Quand des moniteurs d'école du dimanche se privent de la prédication pour être avec les enfants, ce n'est pas par amour des enfants uniquement. C'est aussi parce qu'ils croient que Dieu prend soin des enfants et qu'il a besoin de personnes qui mettent leur temps à part pour s'occuper d'eux. Et en répondant à cet appel, c'est de l'adoration. Quand chacun d'entre nous vient faire le ménage à l'église, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas par obligation, parce qu'il faut bien qu'on le fasse, parce que sinon quoi ? Je ne sais pas, mais il faut. Non, c'est parce que c'est un moyen de servir nos frères et sœurs, et de leur faire plaisir en leur proposant, chacun à notre tour, chacun pour notre part, un lieu propre et agréable. Il y a toutes sortes de façons de servir ses frères et sœurs, des petites, des grandes, des qui prennent beaucoup de temps, des qui en prennent moins selon la disponibilité qu'on a. Mais toutes peuvent être faites avec un cœur d'adoration pour notre Dieu qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Et puis aussi, l'adoration, c'est se mettre au service des autres, de ceux qui ne sont pas nos frères, nos sœurs, qui ne le sont pas encore, par amour, par refus du péché et de l'égoïsme du monde, pour leur montrer qu'une autre voie est possible, une voie de partage, une voie de grâce, de gratuité, de don, à l'image de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il fait pour l'humanité. Proclamer aussi le message du salut à travers nos actes. Ce que nous vivons jour après jour, ça aussi, c'est de l'adoration. L'adoration, elle engage toute notre vie. Nous adorons non pas par des cultes le dimanche matin, mais en esprit et en vérité. Pas besoin de rites, d'habitudes, mais besoin de toute notre vie. Il y aura encore tellement à dire sur l'adoration. Je vous ai dit, les pièces sont réparties dans toute la Bible. C'est quelque chose que vous pouvez méditer et recoller les morceaux quand vous lisez la Bible pour vous-même. Mais nous allons nous arrêter là pour ce matin et passer à un temps où nous allons louer le Seigneur ensemble. Pour conclure, notre mission, c'est d'adorer Dieu. Il ne faut pas prendre cette mission à la légère. Cette mission, ce n'est pas un temps sympa le dimanche matin, pour si j'arrive à me lever. L'adoration, c'est l'orientation de notre vie. Cette orientation de notre vie qui connaît certes des sommets le dimanche matin, quand on est tous ensemble pour unir nos voix dans de mêmes paroles, c'est stimulant. Mais cette adoration, elle se poursuit quand on a dépassé le sommet, jour après jour. Le théologien Émile Nicole écrivait à propos de ce temps du dimanche matin, « On croit qu'on a honoré Dieu parce qu'on s'est fait plaisir, alors que Dieu nous attend le lundi matin au travail, ou le dimanche soir avec notre famille pour voir si nous lui rendons vraiment un culte. » Aussi, adorons-le. Adorons-le avec toute la liberté qu'il nous donne. Poursuivons la joie, avec joie, la vocation du peuple de Dieu. Ce pourquoi Dieu s'est choisi un peuple. Rendons à Dieu notre culte d'adoration. C'est notre mission.